Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. En attendant la nouvelle année, je vous propose, comme un calendrier de l'avant et de l'après, 5 lectures avec 4 autrices et un auteur, des lectures que je vous recommande d'offrir, de partager, de lire évidemment, des lectures qui m'ont permis de mieux comprendre le monde. Rencontre lecture avec Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Ma première rencontre avec Sorge Chalandon, c'est avec Le Quatrième Mur, un très grand roman que j'ai partagé avec mes élèves. Je vous propose de vous lire aujourd'hui L'Incipit d'Enfant de salaud. Voici la lecture de la quatrième de couverture. Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés, SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue, sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité, qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui, qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous. Les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires, qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, embrouillant chaque piste, qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres, puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Dimanche 5 avril 1987. C'est là. Je me suis surpris à le murmurer. Là, au bout de cette route, une départementale en lacet qui traverse les vignes et les champs paisibles de l'Ain, puis grimpe à l'assaut d'une colline entre les murets de rocailles et les premiers arbres de la forêt. Lyon est loin, à l'ouest, derrière les montagnes, et Chambéry de l'autre côté. Mais là, il n'y a rien. Quelques fermes de grosses pierres mal taillées, calfeutrées au pied des premiers contreforts rocheux du Jura. Je me suis assis sur un talus. J'ai eu du mal à sortir mon stylo. Je n'avais rien à faire ici. J'ai ouvert mon carnet sans quitter la route des yeux. C'était là. Il y a 43 ans, moins un jour. Cette même route, au loin, sous la lumière froide, d'un même printemps. Le jeudi 6 avril 1944, à l'aube, c'est de ce tournant qu'ils ont surgi. Une traction de la Gestapo, suivie par deux camions civils conduits par des gars du coin. L'un d'eux s'appelait Godani. De retour à Brance, chez son employeur, il dira « J'ai fait un sale boulot ». Mais ce matin seulement le bruit du vent, un tracteur qui peine au milieu de son champ. Je me suis mis en marche lentement, pour retarder l'instant où la maison apparaîtrait. Un chemin sur la gauche, une longue grille de fer forgé noir, le frôlement d'un bourdon, l'humeur mauvaise d'un chien derrière une grange, et puis la bâtisse, massive, trapue, coiffée d'un toit de tuiles rondes et d'une lucarne. Deux étages aux volets verts qui dominent la vallée, des grappes de lilas blancs au-dessus de la haie, du pissenlit dans le vallon et la grande fontaine asséchée, ses gargouilles assoupies au milieu d'une cour de pauvres herbes. C'est là. Madame Thibaudet m'attendait, au pied des trois marches qui mènent au perron. Vous êtes le journaliste ?
Oui, c'est ça, le journaliste.
Je n'ai eu pour lui répondre qu'un sourire et ma main tendue. La femme est passée devant, elle a ouvert la porte de la salle à manger, s'est figée dans un coin de la pièce, les bras le long du corps, et puis elle a baissé les yeux. Elle semblait gênée, son regard longeait les murs pour éviter ma présence. Je dérangeais sa journée paisible. Tout le village a eu pour moi ce même embarras poli, ces mêmes silences en fin de phrase, les plus jeunes comme les anciens. Un étranger qui remonte à pied la route menant à la maison, mais pour chercher qui ? Pour découvrir quoi ? Toutes ces années après. Isieux n'en pouvait plus de s'entendre dire que le bourg s'était couché devant les Allemands, qu'un salopard avait probablement dénoncé la colonie des enfants juifs. Qui avait fait ça ? Tiens, cela pouvait être Lucien Bourdon, le cultivateur lorrain qui accompagnait la Gestapo lors de la rafle et qui était retourné à Metz 2 jours après. Oui, le crime pouvait être l'œuvre de ce félon, incorporé plus tard dans la Wehrmacht et arrêté à Sarrebruck par l'armée américaine sous l'uniforme d'un gardien de camp de prisonniers. Et pourtant, faute de preuves, le martyr des enfants d'Isieux n'avait pas été retenu contre lui. Mais alors qui d'autre ? Le père Vucher, le confiseur de la Bruyère qui avait placé René Michel, son fils de 8 ans, à la colonie d'Isieux sous prétexte qu'il était turbulent. Son gamin avait été raflé le 6 avril avec tous les autres, mais descendu du camion pendant leur transfert à Lyon. Libéré par les Allemands devant le magasin de son père, parce que lui n'était pas juif. Vucher fut vite soupçonné par la résistance. Il aurait mis son enfant là pour espionner les autres. Quelques jours plus tard, l'homme était emmené par les partisans et fusillé dans les bois de Mûres, sans avoir rien avoué. Qui avait vendu la colonie et avait-elle été seulement dénoncée ? Le bourg était épuisé par la question. En 1944, s'il y avait eu un mouchard, cela aurait pu être n'importe lequel de ses habitants. Un village de 146 suspects. Et la vermine y vivait peut-être encore, recluse derrière ses volets. Ils venaient de partout, les enfants. Juifs polonais devenus gamins de Paris avant la guerre, jeunes Allemands expulsés du pays de Bade et du Palatinat, mômes d'Autriche qui avaient fui l'Anschluss, gosses de Bruxelles et Kinderen d'Anvers, petits Français d'Algérie, réfugiés en métropole en 1939. Certains avaient été internés au camp d'Atsch, de Gours et de Rivesaltes, puis libérés en contrebande par Sabine Zlatin, une infirmière chassée d'un hôpital lyonnais parce qu'elle était juive. Leurs parents avaient accepté la séparation. La fin de la guerre réunirait les familles à nouveau. C'était leur dernier espoir. Personne ne pourrait faire de mal à leurs enfants. Madame Zlatin avait trouvé pour eux une maison à la campagne, avec vue sur la Chartreuse et le nord du Vercors. Une colonie de vacances, un havre de paix. En mai 1943, dissimulé dans un hameau aux portes d'Isieux, ce refuge est devenu la maison des enfants. Un lieu de passage, le maillon fort d'une filière de sauvetage vers d'autres familles d'accueil et la frontière suisse. C'est Pierre-Marcel Wiltzer, sous-préfet patriote de Belley, qui avait proposé cet abri à l'infirmière polonaise et à Miron, son mari. « Ici, vous serez tranquille », leur avait promis le haut fonctionnaire. Et ils l'ont été pendant presque 1 an. Pas de radiateur mais des poêles à bois, pas non plus d'eau courante. L'hiver, pour leur toilette, les éducateurs réchauffaient l'eau dans un chaudron. L'été, les enfants se lavaient dans la grande fontaine, se baignaient dans le Rhône, jouaient sur la terrasse et y chantaient aux veillées. Ils mangeaient à leur faim. Des cartes de ravitaillement avaient été fournies par la sous-préfecture et les adolescents entretenaient un potager. À la colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault, son nom officiel de papier tamponné, pas d'allemand, pas d'étoile jaune. Seule l'angoisse de nuit des petits arrachés à leurs parents. Sur les hauteurs dominant le Bugey et le Dauphiné, rien ne pouvait leur arriver. Ils ne se cachaient même pas. L'herbe était haute, les arbres touffus, leur voix cristalline. La guerre était loin. Une poignée d'adultes est venue en renfort de Sabine et Miron Zlatin. Quand Léon Reifman est arrivé devant la maison, il a souri. Quel paradis ! Étudiant en médecine, il a participé à la création de la maison pour s'occuper des enfants malades. En septembre 1943, Sarah, sa sœur médecin, l'a remplacée. Le jeune homme était recherché pour le STO. Il n'a pas voulu mettre la colonie en danger. Les Latins ont aussi embauché Gabrielle Perrier, 21 ans, nommée institutrice stagiaire à la maison d'Isieux par l'inspection académique. Cadeau du sous-préfet Wiltzer, une fois encore. On lui a dit que ses écoliers étaient des réfugiés. Officiellement, il n'y a pas de juifs à la colonie. Ce mot n'a jamais été prononcé. Avant même qu'ils soient séparés, les parents ont appris à leurs enfants le danger qu'il y avait à avouer leur origine. Certains survivants absents le 6 avril raconteront plus tard que chacun d'eux se croyait le seul juif de la maison. Mais tout le monde savait aussi que la maîtresse d'école n'était pas dupe. Pendant l'année scolaire, 4 adolescents étaient pensionnaires au collège de Belley. Ils ne rentraient à la colonie que pour les vacances. Pour les plus jeunes, une salle de cours avait été aménagée au premier étage. Il y avait des pupitres, des livres, des ardoises prêtées par des communes voisines et une carte du monde accrochée au mur. L'institutrice, qui ne se séparait jamais d'un sifflet à roulettes, prenait soin de tous. Il fallait à la fois rassurer Albert Bulka, que toute la colonie appelait Coco et qui n'avait que 4 ans, et instruire Max Tettelbaum, qui en avait 12. C'est ici qu'il faisait la classe, a lâché Madame Thibaudet. En haut de l'escalier de bois et de tomettes rouges, une pièce qui ressemblait à un grenier. Sur les murs blancs, de vieilles photos passées et lacérées, images de vaches tranquilles, de chevaux, de montagnes, un dessin cocardier montrant un coq et un enfant. Il faisait froid. La propriétaire allongeait le mur une fois encore. D'un geste du menton, elle a dessiné 3 pupitres d'écoliers tapis dans un coin d'ombre. Silence. C'est tout ce qu'il reste ? C'est tout, oui. On n'a gardé que ces tables-là. Je l'ai regardée. Elle a baissé les yeux, comme prise en faute. Quand on est arrivé, tout était humide à cause des fuites du toit. On a fait un tas dans la cour. Il y avait des vêtements, des matelas. On y a mis le feu. Je n'arrivais pas à saisir son regard. « Vous y avez mis le feu ?» Elle a haussé les épaules, voix plaintive. « Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse de tout ça ?» Alors je me suis approchée de la première table avec son banc scellé. Sur le bois, il y avait des traces usées d'encre noire. « Je peux ?» La villageoise n'a rien répondu, ses épaules lasses une fois encore. « Je pouvais. » J'ai retenu mon souffle et ouvert le pupitre. Ma main tremblait. À l'intérieur, contre le battant, un papier collé, un début de calendrier jauni, calligraphié à l'encre violette. Dimanche 5 mars 1944, lundi 6 mars, mardi 7 mars. Tout un mois aligné. Et ça ? La propriétaire s'est penchée sur le rectangle noir encadré de bois. Une ardoise ? Oui, l'ardoise de l'un des enfants, oubliée au fond du pupitre, jamais trouvée, jamais regardée, jamais intéressée personne. Une main malhabile y avait tracé le mot « pomme ». J'ai levé les yeux vers la femme. Elle était indifférente, comme repartie ailleurs. Elle lissait son tablier des deux mains. Je me suis tournée, visage contre le mur. Un instant, presque rien. Un sanglot privé de larmes, le temps de graver pour toujours ces 5 lettres en moi. J'ai entendu le crissement de la craie sur l'ardoise. Lequel d'entre vous avait écrit ce fruit ? Lorsque je suis revenue vers la femme, elle m'observait, gênée. Mon émotion l'embarrassait. C'était ma lecture d'Enfant de salaud de Sorge Chalandon, que je vous recommande vivement de lire, offrir, partager.